Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, on va parler de cinéma avec La Pièce Rapportée, une comédie avec Josiane Balasko et Philippe Catherine, et puis un jeu vidéo célèbre dans le monde entier, des centaines de millions de joueurs, Assassin's Creed, qui est passé de la baston à la pédagogie. Il y aura évidemment Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences télé d'hier soir, Bruno Denet pour ses télescopages, Marc-Antoine Lebray, je vais y arriver avec ce masque, et ses stories, sans oublier le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Notre infomédia, on va se pencher sur un nouveau numéro de Dossier Tabou sur M6, présenté par Bernard Davillardière, qui va faire grincer des pales. Il s'intéresse aux énergies vertes, sont-elles vraiment vertueuses? Ses équipes ont enquêté sur les énergies éoliennes et solaires, et des questions se posent à la fois sur la manière dont sont implantées ces structures, mais également sur leur impact réel sur l'environnement. Nos invités ensuite, la comédienne et réalisatrice Valérie Donzelli, qui signe sa toute première série, ça s'appelle Nona et ses filles, c'est sur Arte, ça démarre ce soir avec Miu Miu, Virginie Ledoyen, Clotilde M et Michel Villermoz, et ça démarre très fort, Miu Miu a 70 ans et elle est enceinte. Enfin, l'humoriste Jonathan Lambert pour son dernier spectacle, Rodolphe. C'est qui Rodolphe? C'est lui, c'est son vrai prénom, si, mais c'était aussi le prénom de son père. Et le fiston avait en quelque sorte le choix entre une psychanalyse et un one-man show. Il a choisi, il sera chez nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Louise, au sommaire de votre journal des médias.
Pourquoi vous ne verrez pas de campagne d'affichage de têtu dans les gares parisiennes? Twitter qui tente de lutter contre le harcèlement avec une nouvelle règle. Une dizaine d'intéressés pour racheter les chaînes de M6 et TF1. Du handball féminin sur les antennes de TF1. Et on terminera en parlant d'un casting de voix très original, vous verrez.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé M6, c'était la soirée spéciale Freddie Mercury avec la diffusion du film Bohemian Rhapsody. Hier, je vous racontais à quel point c'était un joli coup pour M6 de diffuser ce film. Ça se confirme dans les audiences, hein. 4 070 000 téléspectateurs hier soir, 20,9% de part d'audience. Deuxième, France 2 avec sa nouvelle série judiciaire, Le Code, qui était lancée, 3 360 000 téléspectateurs, c'est plutôt correct, 14,8% de part d'audience. Et troisième, là c'est plus compliqué pour TF1 et sa série New Amsterdam, 2 300 000 téléspectateurs seulement, 10,1% de part d'audience devant le premier épisode et ça chute à chaque épisode.
Culture Média.
Le magazine Têtu interdit d'affichage dans les gares parisiennes de la SNCF et de la RATP.
Oui, c'est une affaire rapportée par le site d'information Arrêt sur Image. Le magazine Têtu avait prévu une campagne d'affichage pour promouvoir son dernier numéro avec Bilal Hassani en une. Mais la société Média Transport qui gère la publicité pour la SNCF et la RATP refuse de l'afficher. Que voit-on alors sur cette fameuse couverture? Le chanteur Bilal Hassani qui pose, telle la Madone, assis par terre avec une auréole de lumière au-dessus de sa tête. Une jugée trop confessionnelle pour Média Transport qui estime qu'elle pourrait choquer certains voyageurs. La régie a donc demandé à Têtu de changer sa une pour pouvoir l'afficher dans les gares et couloirs de métro. Refus de la rédaction, qui déjà s'amuse un peu de voir son magazine LGBT+ qualifié de trop confessionnel, et qui avance des arguments artistiques. La mise en scène reprend des codes classiques de la pop culture. Et puis, comme le souligne Arrêt sur Image, c'est quand même un manque d'exposition très important pour Têtu. Média Transport se targue de pouvoir toucher 8 millions de personnes en une semaine d'affichage.
Une nouvelle règle sur Twitter pour tenter de lutter contre le harcèlement.
Le réseau social vient d'interdire la publication de photos ou de vidéos d'un individu sans son consentement. Donc concrètement, si une photo de vous est publiée sans votre accord, vous pouvez la signaler à Twitter pour demander sa suppression. Alors ça ne concerne pas les personnalités publiques, ça serait compliqué sinon de modérer tout ça. Pour Twitter, c'est une façon de tenter de répondre aux critiques régulières qui l'accusent d'inaction face au cyberharcèlement.
Une dizaine d'acteurs intéressés pour le rachat des chaînes TF1 et M6.
C'est une information dévoilée par le journal Les Échos. D'après le quotidien, les candidats avaient jusqu'à la fin de la semaine dernière pour déposer une offre et ils seraient donc une dizaine. Alors pour rappel, pour espérer fusionner, TF1 et M6 doivent céder 3 chaînes de la TNT pour se conformer à la loi. Plusieurs offres porteraient sur la chaîne jeunesse du groupe M6 Gulli. Les Échos citent notamment le groupe Unique Heritage Media qui possède le journal de Mickey, entre autres. C'est cohérent, Gulli, oui. Chaîne Jeunesse, journal de Mickey, le journal des enfants. Quant aux autres acheteurs intéressés par les chaînes, ça reste des hypothèses. Hein. Les Échos citent Media One, Energy, mais sans offre formelle. Alain Veil, le patron de l'Express, lui, s'était dit publiquement, hein, il est intéressé pour reprendre l'une des chaînes. Il l'avait notamment dit à votre micro, Philippe, avec pour ambition de créer l'Express TV. Les Échos qui estiment que les acquéreurs pourraient être choisis d'ici le printemps parce que ça permet de donner des gages à l'autorité de la concurrence qui doit rendre son avis en octobre 2022.
Octobre 2022. Le groupe TF1 diffuse les championnats du monde de handball féminin.
Oui, ça commence ce week-end avec le match Slovénie-France sur TMC, dimanche à 17h50. Alors, côté dispositif, ben, on ne change pas une équipe qui gagne. Grégoire Margoton et Nojialem Miaro, qui est ancienne capitaine de l'équipe de France, championne du monde en 2003, présidente aussi de la Ligue nationale féminine de handball. Ensemble, ils avaient déjà commenté l'Euro, c'était en 2018 et en 2020, sur les antennes de TF1 aussi. Deux événements qui avaient très bien marché en termes d'audience et qui encourage donc TF1 à continuer de diffuser le hand féminin. Julien Mireux est le directeur des sports du groupe.
En 2018, on avait fait 5,5 millions. En 2020, pareil, la finale, on avait fait 4 millions de téléspectateurs le dimanche après-midi. Ça reste des scores exceptionnels. Donc voilà, on reconduit ce dispositif et les Françaises en plus sont championnes olympiques. Elles ont l'occasion de réaliser le doublé. On les suit et on a des contrats à long terme, que ce soit pour les Euros ou pour les championnats du monde, jusqu'à 2024 et 2025 respectivement. Donc le handball, l'équipe de France, on va dire, son histoire s'écrit sur nos antennes à long terme. En plus, on a l'horizon Paris 2024 avec les JO qui arrivent, donc on va continuer à construire autour de ce sport qui est à la fois porteur de valeurs, je trouve qu'il se rapproche des valeurs du groupe TF1, qui reste très populaire et puissant en audience.
Et si les Françaises sont qualifiées en finale, on leur souhaite. Hein. Le match sera d'ailleurs retransmis sur TF1. Les quarts et demi-finale, ce sera sur TMC. Ces événements sportifs sont très importants pour TF1. Encore plus à l'heure où on consomme la télévision de manière de plus en plus fragmentée.
Pour nous, ça fait partie de l'ADN de TF1. Et c'est important de continuer à diffuser ce type d'événements sportifs qui sont fédérateurs et que les gens regardent ensemble. C'est quand même un vecteur aussi de lien social. Et aujourd'hui, il y a peu de typologie de programme. Alors évidemment, il y a les grands divertissements populaires qu'on peut diffuser, il y a les grands rendez-vous d'information, mais il y a peu d'événements qui sont capables de réunir, déjà qui doivent être regardés en direct plutôt qu'à la demande, et qui se regardent ensemble. Donc c'est pour ça aussi qu'on continue à diffuser ce type d'événement.
Julien Mireux, directeur des sports du groupe TF1, qui diffuse donc le premier match des Bleus, c'est dimanche sur TMC à 17h50.
Et on termine ce journal avec Amazon Prime Video qui organise un casting pour trouver la voix off française de sa prochaine série, un casting très original.
Oui, parce que c'est sur le réseau social TikTok et tout le monde peut participer, vous aussi Philippe si vous voulez. Amazon Prime Video a mis en ligne 6 extraits vidéo de ses précédentes productions. À chaque fois, il manque une partie des dialogues. À vous de les doubler, hein, à l'utilisateur de doubler ses répliques manquantes. Le texte défile en bas de la vidéo à la bonne vitesse, donc vous pouvez doubler dans des bonnes conditions. Alors qui pour départager les candidats? Eh bien un jury professionnel. Jean-Pierre Michael qui est doubleur de Brad Pitt, Jude Law, Michael Fassbender, entre autres, hein, vous connaissez sûrement sa voix.
C'est fou à quel point ça me décrit parfaitement. Une sorte de vieux cow-boy qui tournait des films au ranch de CinemaSpot.
Extrait de Once Upon a Time in Hollywood. Deuxième juré, Jesse MP4, c'est un youtubeur qui est spécialisé, lui, dans les parodies de doublage. Pour participer, c'est donc sur TikTok, grâce à la fonction duo, avec un mot-clé Dubbing Factory, D-U-B-B-I-N-G Factory. Le casting est ouvert jusqu'à lundi. On a le temps de faire votre petite vidéo, Philippe.
Bon, on va essayer. Merci beaucoup, Luce Bernard. C'était votre vraie voix. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, dans notre info média du jour, la face noire des énergies vertes. C'est le titre d'un nouveau numéro de Dossier Tabou présenté sur M6 par Bernard Lavillardière. Ce sera ce dimanche. Lui et ses équipes ont enquêté sur les méthodes des promoteurs des énergies renouvelables et la manière dont celles-ci sont fabriquées. Et des questions se posent. C'est un euphémisme et on va les évoquer ensemble. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
D'un côté, l'éolien renouvelable, de l'autre, le solaire renouvelable. Et si les énergies vertes n'étaient pas aussi vertueuses qu'on le pensait? Alors que la France s'engage à augmenter sa part de renouvelables dans les années à venir, ces énergies dites vertes poussent au débat, d'une part à cause de leur implantation, qui n'est pas toujours réalisée dans la concertation des citoyens, mais également à cause de leur impact mitigé, on va dire ça comme ça, sur l'environnement. Un nouveau numéro de Dossier Tabou qui sera diffusé ce dimanche sur M6 se penche tranchant la question. Le titre donne le ton, la face noire des énergies vertes. Bonjour Bernard de la Villardière.
Bonjour Philippe Bandel.
Vous êtes le producteur et le présentateur de ce nouveau numéro de Dossier Tabou. Donc Bernard de la Villardière qui tape contre les énergies vertes, est-ce que ce n'est pas un petit peu attendu?
Pour quelle raison? Pas du tout. Non, moi, je suis un amoureux fou de l'environnement et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'émissions là-dessus, y compris dans.
Ben justement. Donc, l'hiver, je pensais que vous alliez les brosser, si j'ose dire, dans le sens du poil, ces énergies-là.
Non, moi, ce qui m'agace, ce sont toujours les approches un peu doctrinaires, un peu systématiques. Les énergies vertes, c'est formidable, mais on les appelle improprement énergies vertes. Parce qu'elles ne sont pas si vertes pour construire une éolienne. Il faut de l'acier, il faut couler du béton, 1500 tonnes de béton dans la terre pour mettre un mât de 100, 150 mètres, voire 200 mètres de haut. Donc voilà, tout ça n'est pas si vertueux que ça. Et donc l'emballement sur les énergies vertes, encore une fois, qui sont improprement pas appelées vertes, a fait qu'on a enquêté sur l'envers du décor. Pourquoi cet emballement? Et puis on constate en fait qu'il y a un revirement de l'opinion peu à peu. En fait, vous savez, les énergies vertes, c'est formidable pour les écolos urbains, mais les écolos à la campagne commencent à se révolter contre le fait qu'on scarifie les paysages et que finalement on leur raconte un peu des histoires.
Et oui, puisque l'éolienne, elle est en bas de chez eux et non pas dans les villes. Puisque vous parlez des éoliennes, on va y aller. Pour les promoteurs de l'éolien, il existe un Eldorado en France. C'est le département de la Somme où se trouvent 1000 des 8000 éoliennes françaises. Qu'est-ce qui se passe dans la Somme pour qu'il y ait une telle implantation de l'éolien? Il y a beaucoup plus de vent qu'ailleurs?
Oui, il y a sans doute plus de vent, mais il y a aussi le fait que dans l'éolien, finalement, les opérateurs ont tout intérêt à regrouper les éoliennes parce qu'il faut les relier au réseau. Et donc, quand on construit un parc d'une vingtaine, une trentaine d'éoliennes, après, on a tout intérêt à en construire tout autour. Ce qui fait que dans la Somme, il y a des gens, on a été notamment au village de Montagne-Fayel, où il y a plus de 120 ou 150 éoliennes. Et il y a des maisons qui sont complètement cernées et des gens qui sont agressés, évidemment, par la vue des éoliennes. C'est joli, c'est élégant une éolienne, mais quand on vous impose ça sur l'horizon, c'est pas toujours évident, d'autant que du coup ça a un effet sur le prix de l'immobilier, le prix des maisons baisse, alors que les gens ont investi, ont acheté, etc. Et puis c'est le bruit aussi.
Justement, vous avez rencontré Daniel là-bas dans la Somme, sa maison est cernée par les champs d'éoliennes, on le voit sur vos images, et c'est pas fini, parce que d'autres projets vont bientôt être implantés autour de chez elle. Extrait.
Combien vous voyez d'éoliennes aujourd'hui de votre maison?
Si on commence à compter, on arrive très rapidement à 50. Ce projet rajoute 12 éoliennes. 12 éoliennes avec un deuxième projet qui en ajoute encore 8 ou 12. Encerclé complètement. Sur la valeur de la maison, on ne se pose même plus la question. Là, de toute manière, la valeur, elle l'a perdue. Elle a perdu. Il y a une vingtaine d'années de ça, j'avais des cartons d'agents immobiliers qui me laissaient leurs petits cartons au cas où on voulait vendre la maison. Depuis que les éoliennes sont arrivées, on n'a plus jamais eu un seul carton dans la boîte aux lettres.
Ça fait 35 ans qu'elle vit dans cette maison, Danielle. 70 éoliennes autour de chez elle et elle n'a jamais été consultée.
Oui, parce que ce sont les préfets qui décident. Alors cela dit, Barbara Pompili... la ministre chargée de l'environnement, qui a refusé d'ailleurs de répondre à nos questions, c'est dommage. C'est apparemment dommage. Je lui fais davantage peur qu'Élise Lucet, ce que je prends plutôt comme un compliment. Elle a décidé récemment de nommer un médiateur pour l'éolien, parce qu'elle sent cette montée de la colère dans les campagnes, dans les territoires. Et dorénavant, les maires seront évidemment plus consultés.
Parce que ce que montre votre sujet, c'est que les maires sont consultés, mais ils n'ont pas de voix au chapitre. C'est-à-dire qu'on leur annonce ce qui va se passer, mais s'ils ne sont pas d'accord, ça se fait quand même, puisque c'est le préfet qui décide.
Absolument, en dernier ressort. Alors cela dit, encore une fois, les choses vont a priori changer, parce qu'on voit qu'il y a un revirement de l'opinion, et notamment dans la Somme et dans les Hauts-de-France. D'ailleurs, c'est assez amusant, parce que Xavier Bertrand, qui est candidat à la présidentielle, vous savez que dans son programme, il dit qu'il veut arrêter totalement le programme des éoliennes, voire les enlever là où elles existent. Parce que effectivement, dans les Hauts-de-France notamment, on se sent complètement dépossédé du paysage.
Vous parlez de la loi qui va peut-être changer, le règlement qui va peut-être changer. J'ai découvert dans votre sujet que le règlement avait changé. Il y a la question du bruit. La norme de tolérance au bruit a été repoussée pour s'adapter aux éoliennes. Racontez cette histoire.
Oui, c'est-à-dire que la norme, c'est 30 décibels. Et là, on a augmenté la norme à 35, ce qui revient, en fait, c'est
exponentiel. En fait, j'explique. On devait
pas construire d'objets qui dépassent les 30 décibels.
Absolument.
Et comme on n'arrivait pas à faire des éoliennes silencieuses, on a changé la norme.
Absolument.
Comme on ne fait pas baisser la fièvre, on change le thermomètre.
Oui, tout à fait. Et ce qui fait que quand on passe de 30 à 35, voire parfois 39 pour certains relevés de bruit qu'on a fait avec un expert, eh bien c'est 4 fois plus bruyant que si c'est à 30 en fait.
Évidemment. Parce que
c'est une courbe exponentielle.
C'est une échelle logarithmique. C'est comme ça qu'on dit. Il y a certains qui critiquent les éoliennes pour leur supposée laideur, mais vous, par exemple, vous faites dans votre sujet des images absolument superbes, des paysages avec des éoliennes, et quand vous êtes face au délégué général de France Énergie Éolienne, vous dites, c'est pas laid une éolienne, vous trouvez ça même élégant. Là encore, ça vous fait sourire.
Parce que c'est vrai. Non, mais j'ai rien contre les éoliennes, et vous savez, la France s'est engagée aux yeux du monde, à faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 40% d'ici 2030, je crois. Mmh. Et donc, il faut en passer par les énergies dites vertes, que j'appellerais plutôt énergies renouvelables. Mais il faut savoir aussi que ces énergies sont des énergies intermittentes. Une éolienne, notamment, elle produit à pleine capacité que 25% de son temps. Mmh. Or, comme on ne peut pas stocker l'électricité, on est obligé, quand on construit des parcs d'éoliennes, de construire aussi des centrales à gaz pour pouvoir satisfaire la demande, notamment quand il y a des pics de froid.
Et pour compenser quand il n'y a pas de vent. Donc on allume du gaz pour compenser quand il n'y a pas de vent.
Donc il est important de rester raisonnable dans le mix énergétique et d'avoir une part d'éolien et de photovoltaïque, d'énergie renouvelable, mais conserver évidemment nos centrales nucléaires. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement vient de décider de relancer le programme nucléaire après avoir fermé Fessenheim.
Puisque vous en parlez, le photovoltaïque, vous intéressez notamment à la production des panneaux solaires. Ils sont construits où et ils sont construits comment?
Les panneaux solaires sont construits avec un minerai qui s'appelle la silice, transformé en silicium. Et 80% du silicium au niveau mondial provient de Chine. Nous avons envoyé une équipe tourner en Chine. Ça a été compliqué pour eux d'accéder à ces mines.
Racontez comment vous avez fait.
Dans le Xinjiang. Bon, on a fait appel à une équipe locale, une journaliste sino-australienne, d'ailleurs, qui a dû quitter le pays depuis, parce que, évidemment, elle a été poursuivie par les autorités. Il a fallu qu'elle quitte le pays. Il faut savoir que la Chine est un pays dans lequel il est de plus en plus compliqué de travailler. Moi-même, je n'ai pas de visa pour aller en Chine depuis des années, en tant que journaliste, en tout cas. Et donc, elle a accédé à ces mines. Et on voit que dans cette région du Xinjiang, il y a des forêts qui sont dévastées pour creuser et aller chercher de la silice. Et on exploite notamment, puisque le Xinjiang, il faut savoir, c'est une région du nord de la Chine, aux confins de la Birmanie. Et c'est là qu'il y a les Ouïghours, comme vous le savez, qui sont ces Chinois musulmans persécutés par le régime. Et donc, on oblige des Ouïghours à travailler, c'est du travail forcé, dans ces mines. Donc, nos panneaux photovoltaïques sont construits souvent par des Ouïghours réduits en esclavage. Par le régime chinois.
On va entendre un extrait qui parle de ça, mais d'une manière générale, en fait, on exporte nos points noirs, on exporte notre pollution, si
oui,
j'ai bien compris.
C'est-à-dire qu'on se donne bonne conscience en disant oui, on développe les énergies vertes, mais en fait, on exporte effectivement la pollution vers les pays du Sud, parce qu'on ne prend pas en compte finalement tout le trajet, toute l'histoire en fait de l'éolienne ou du panneau photovoltaïque.
Et les mauvaises
pratiques. Parce qu'il y a la construction et puis il y a le recyclage.
Et les mauvaises pratiques sociales sur lesquelles on va revenir. Vous restez avec nous, Bernard de Larvillardière. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
La face noire des énergies vertes, c'est dimanche sur M6 dans Dossier Tabou, émission présentée et produite par Bernard de Larvillardière. On parlait du scandale autour de la fabrication des panneaux solaires. Il y a les matières, il y a cette silice qui est extraite du sol dans des conditions relativement déplorables. Et aussi ces panneaux fabriqués par des travailleurs forcés de la communauté Ouïghour, vous en avez parlé, travailleurs enfermés dans des camps. C'est ce que révèle le rapport...
Les Ouïghours, c'est une minorité musulmane.
C'est ce que révèle, vous avez raison de le dire, le rapport d'une chercheuse américaine. Elle s'appelle Laura Murphy, elle est spécialiste de l'esclavage moderne et vous l'avez interviewée pour Dossier Tabou.
Vous dénoncez dans votre rapport l'exploitation d'une main-d'œuvre forcée, notamment recrutée dans la minorité ouïghour, par de grandes firmes de fabrication de panneaux solaires. C'est tout un système d'exploitation qui a été mis en place par les autorités chinoises, en fait.
Depuis 2017, le gouvernement chinois a créé un système massif d'internement pour les minorités ouïghours. Cela veut dire que tout le monde peut être raflé. C'est le mot qu'ils utilisent. Rafler toute personne qui doit être raflée.
Quelles images, quelles preuves vous a fourni cette spécialiste de ce qu'elle avançait?
Ce sont des images photos de satellites qu'on reproduit d'ailleurs dans ce document. La face noire des énergies vertes qui est diffusée à 21h10 sur M6 dimanche, il faut le rappeler.
Dans ce rapport, on apprend donc que des Ouïghours ont travaillé sur des panneaux solaires installés en France par le fournisseur d'énergie Engie. Vous avez essayé de les joindre. Que vous ont-ils répondu?
Engie n'a pas voulu répondre à nos questions. Il y a beaucoup d'opérateurs. La plupart des opérateurs n'ont pas voulu répondre à nos questions. Il y a un opérateur de panneaux photovoltaïques, Valorem, qui a accepté de répondre à nos questions. Mais sinon, tout le monde s'est défilé, ce qui est un peu dommage. À l'aune de Barbara Pompili, notre ministre de l'Environnement. Et c'est un peu dommage, encore une fois.
Et qu'est-ce qu'il vous dit sur les Ouïghours?
Ah, bah oui, qui regrettent, qui sont bien conscients, que voilà, et qui s'essayent. Il faudrait fabriquer de la silice ailleurs, et notamment de la silice, il y en a en France. Donc il faudrait assumer. Alors évidemment, c'est beaucoup plus cher de le produire et de l'extraire en France. Il faudrait rouvrir des mines aussi.
Et puis je donne les chiffres que vous donnez. Pour produire un kilo de silicium, une raffinerie a besoin, c'est dans votre émission que j'ai appris ça, besoin
plus de 200 kilos de produits chimiques.
Hein. 280 kilos de produits chimiques, dont du chlore, de l'acide citrique et de l'ammoniac.
Alors, ouais. Et puis il y a la pollution de l'air. Parce que quand il faut dégager les gaz produits par la fabrication, et souvent il y a des échappements de gaz dans la nature, dans le ciel, et ça produit beaucoup de pollution.
Alors, pour trouver beaucoup, beaucoup d'éoliennes, il faut aller dans la Somme. Pour les panneaux solaires, il faut se rendre dans les Landes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de soleil qu'ailleurs
Oui, et puis ils ont eu une tempête, la tempête Klaus en 2009, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de bois qui ont été arrachés par la tempête, abattus. Et donc, à ce moment-là, les opérateurs de panneaux photovoltaïques sont venus avec leur carnet de chèques essayer de convaincre les maires, les propriétaires terriens de mettre des champs de panneaux photovoltaïques.
On entend beaucoup l'expression carnet de chèques dans ce dossier, justement. Donc, on va aller pas loin des Landes, on est en Gironde. Il y a un immense projet qui va voir le jour. On annonce pas moins de 1000 hectares de forêt pour construire, qui a été défraîchi pour construire le plus grand parc photovoltaïque d'Europe. Il fait 7 km de long sur 4 de large. On va entendre un son, c'est une réunion publique. Ce sont les promoteurs en compagnie de la population qui s'inquiète, cette population, du sort réservé à sa forêt.
Les habitants de Socat s'inquiètent aussi pour l'avenir de la forêt.
Que se passe-t-il si on enlève les pins? Y a-t-il des risques d'inondation? La nappe phréatique étant très proche.
Il y a 20 000 hectares qui ont été défrichés depuis 20 ans dans le massif landais. Ça fait l'équivalent de 4 fois la ville de Bordeaux en 20 ans déjà.
Il faut que chaque hectare défriché où on détruit la forêt soit compensé par un hectare installé sur des zones qui ne sont pas forestières aujourd'hui, donc des zones ou urbaines mal utilisées, ou bien des zones industrielles délaissées, etc. Mais il faut vraiment aller dans ce sens-là, sinon le projet, il perd complètement de son intérêt s'il y en a un au départ, quoi.
C'est très louable ce que dit cette dame. À quoi servent ces réunions publiques? Pour dire les choses différemment, est-ce que les citoyens sont écoutés au final?
Bah, oui et non. Oui et non. Ce qui fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de défiance et de colère de la part de ces riverains, et notamment dans les Landes, contre ces énergies vertes. Alors bon, les sociétés font de gros efforts. Malheureusement, c'est un peu le jeu des poupées gigognes hein, dans ce domaine, notamment dans l'éolien, mais aussi dans le photovoltaïque. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés au joli nom de provincialistes, par exemple, qui ont érigé des mâts d'éoliennes.
Ils signent des contrats, ensuite ils ont racheté par une autre.
Sainte-Victoire, profitant du confinement pour le faire. Et puis au bout du compte, on s'en rend compte que c'est des sociétés détenues par des fonds d'investissement irlandais, voilà. Espagnols, américains, canadiens.
Et qui n'étaient même pas là à la signature du contrat.
Et dont on n'est pas sûr qu'ils seront encore là au moment où il faudra démanteler tout ça.
Ça sera dans 20 ans. Le président Macron a annoncé en octobre vouloir investir 1 milliard d'euros dans la fabrication de petits réacteurs nucléaires. Vous en avez parlé, ces réacteurs, il faudra les construire forcément. Il y aura également des riverains qui ne seront pas d'accord. Tout comme il y a des riverains aujourd'hui qui ne veulent pas de déchets nucléaires près de leur village. Vous pourriez produire un dossier tabou consacré au nucléaire?
Oui, ça m'intéresserait beaucoup. Parce que je n'ai pas d'idée préconçue sur le sujet. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est effectivement de fait la seule énergie vraiment propre. En même temps, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de production d'énergie sans danger. Et le nucléaire comporte évidemment un certain nombre de dangers. Cela dit, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont morts, ou des centaines de milliers de gens qui sont morts en exploitant le charbon dans les mines à travers le monde depuis 850 ou 200 ans. Dans le nucléaire, il n'y avait pas eu autant de victimes.
On va parler maintenant d'un autre dossier tabou et radioactif, c'est Éric Zemmour. Je vous en parle parce que vous avez produit un portrait inédit diffusé hier soir en prime sur CNews, intitulé « Zemmour, le dynamiteur ». Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage ?
Je voulais essayer de comprendre. Enfin, mon métier, c'est essayer de comprendre. C'est pour ça, d'ailleurs, que je crois dans un journal télévisé, un journal télé récemment, j'ai dit je ne déteste pas Éric Zemmour. C'est parce que je ne comprends pas cette haine et cette détestation. Moi, mon métier, c'est d'expliquer, de comprendre qu'est-ce qui a fait le fondement de sa pensée, qu'est-ce qui a construit le personnage. Et je crois que c'est un des mérites de ce documentaire, c'est de lui donner la parole. Il se trouve que je l'ai interviewé l'été dernier. C'était fin juillet, début août. À l'époque, oui, on disait qu'il allait être candidat. Enfin, on le disait de plus en plus. J'avais été voir mes camarades de Canal. Et j'aurais proposé de faire une série sur les infréquentables. Je voulais faire Éric Zemmour, Rokhaya Diallo, Michel Onfray, etc. Essayer, parce que je les entends diaboliser dans tous les médias, sans qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui construit leur pensée. Et donc c'est partant de ce principe qu'on a fait le premier numéro avec Éric Zemmour. J'espère en faire deux.
Vous avez vu ce qu'il y avait en face sur BFM à la même heure ?
Un document sur Éric Zemmour.
Exactement. Vous l'avez regardé ?
Non, pas du tout. Non, je dînais chez des amis hier soir. Tout veut dire.
D'accord, vous savez qu'il y a le replay, on peut enregistrer. Merci beaucoup Bernard Lavillardière. La face noire des énergies vertes, c'est dans Dossier Tabou, samedi soir à 21h05 sur M6. Dimanche soir, pardon, et ça sera une soirée 100% de Lavillardière. Par son suite, il y aura un nouveau numéro d'enquête exclusive consacré au Yémen. Et nous recevrons à cette occasion, pour en parler, le réalisateur de l'enquête, Guillaume Dasquier, qui a passé plusieurs mois là-bas sur place, l'un des pays les plus dangereux du monde, peut-être le plus dangereux. Il sera avec nous, Guillaume Dasquier.
Et la face noire des énergies vertes a été réalisée par Olivier Pinte et Alain Pirot.
Et vous étiez, et vous êtes Bernard Lavillardière. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, c'est Valérie Donzelli, actrice, réalisatrice. Elle signe sa première série pour la télévision, ça s'appelle Nona et ses filles, ce sera sur Arte, c'est avec Miu Miu, Virginie Ledoyen, Clotilde M et elle-même. Et on en parle tout de suite après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Valérie Donzelli.
Bonjour.
Vous êtes comédienne mais aussi cinéaste. 5 films signés par vous dont La guerre est déclarée, Notre-Dame, La reine des pommes. Vous aimez vous mettre en scène, vous jouez dans la plupart de vos films. Et cela n'échappe pas à un genre auquel vous confrontez pour la première fois, la série. Votre actualité, c'est Nona et ses filles. C'est une série, 9 épisodes de 30 minutes. Ce soir sur Arte à 21h et c'est déjà disponible évidemment sur le site arte.tv. Casting brillant, Miu Miu, Virginie Ledoyen, Clotilde M, Michel Virmoz et vous-même. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire, le point de départ ?
Le point de départ, c'était de parler d'une mère et de ses filles, de la relation mère-fille. Et donc de raconter comme ça une cohabitation un peu loufoque entre des filles qui viendraient revivre chez leur mère à un âge où on n'est plus censé habiter chez ses parents. Et je me suis dit, il faudrait quelque chose d'extraordinaire, il faudrait qu'il lui arrive quelque chose de fou à cette mère pour que les filles reviennent. Et puis je me suis dit, si elle tombait enceinte, voilà. Et ça me permettait comme ça de pouvoir explorer un peu ce spectre de la maternité comme étant à la fois un super pouvoir et un super poison.
Cette grossesse qui va bousculer leur vie à toutes les quatre, elle est enceinte de qui ? Mystère, parce qu'en plus l'ADN ne correspond pas à celui de son amant, mais ça donne une deuxième information, c'est qu'elle a 70 ans, mais elle a un amant. C'est un récit choral, vous l'avez dit, et votre personnage et ses sœurs, incarnées par Virginie Ledoyen et Clotilde M, on va entendre un extrait, elles s'interrogent justement sur ce mystère qui entoure la grossesse de leur mère.
Hey ! C'est quand même un mystère, non ?
Oui, enfin, excuse-moi de mettre les pieds dans le plat, mais c'est pas un mystère très compliqué à comprendre. Maman a couché, voilà tout.
Ouais, c'est sûr qu'elle a couché, elle a pas fait une insémination artificielle à 70 ans.
Elle a pas non plus congelé ses ovocytes.
Oh ! T'as fait ça ?
Mais pas du tout.
Oui, bon, on sait qu'elle a couché, mais avec qui ? Georges, tu vis ici, t'as pas vu quelqu'un ces derniers temps ?
Non, tu sais, j'ai beau vivre ici, je suis pas beaucoup là. On se croise avec maman.
Ouais.
Oh ! C'est peut-être l'Immaculée Conception comme la Vierge Marie ?
Oui, enfin, sauf que maman n'est pas vierge, ça se saurait. Donc, il y a forcément un Joseph.
Enfin, un Joseph, justement pas. Il y a un père, un géniteur. Joseph, lui, n'était pas géniteur puisqu'il n'avait pas... Bon.
Et on fait quoi ?
On réfléchit.
Donc, les trois sœurs, c'est facile de mémoriser leur âge, que c'est l'année tout-terrain.
Oui, c'est ça. Elles ont 44 ans.
Voilà, c'est le 4-4. Voilà,
et
c'est...
elles sont triplées, donc elles sont nées le même jour.
Et alors, vous les avez caractérisées ainsi, l'intello, la sexologue et la mère de famille. Et moi, j'ai pensé aussitôt au film de Jean Eustache, La maman et la putain.
Ouais.
Et vous êtes passé de 2 archétypes à 3.
Oui, c'est ça. Enfin, oui, c'était. En fait, quand on écrit une série, enfin, moi, je voulais faire une série de personnages. Donc après, c'est vrai qu'on stéréotype un peu les personnages pour leur faire un contour bien défini, et puis après s'amuser à sortir un petit peu de ce contour et d'en faire des personnages plus complexes et peut-être un peu moins clichés. Mais C'est vrai qu'au départ, c'est amusant de partir de choses très précises, quoi.
Alors, il y en a deux qui ont quitté le nid familial. Gabi, c'est Clotilde M, qui est sexologue. Elle écrit des best-sellers sur le couple, mais elle-même, elle est incapable d'avoir un couple. Manu, c'est Virginie Ledoyen, elle est mère de famille. Elle a 5 enfants, dont 2 jumeaux. Et puis vous-même, vous êtes Georges, vous vivez encore chez votre mère, vous êtes encore vierge, vous êtes encore étudiante. Vous essayez de finir votre thèse sur le rôle crucial des femmes en Champagne pendant l'âge du fer. Ça vous fait rigoler, donc ça allait être ma question. Vous êtes masochiste pour vous attribuer ce rôle où justement, plus c'est pire, plus c'est intéressant.
Oui, c'est pas pire, c'est surtout tout ce que je ne suis pas dans la vie. Donc c'est ça qui est amusant quand on est acteur, c'est de jouer des choses qui ne ressemblent pas forcément. Et puis j'aimais bien le côté femme-enfant. Je me disais, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas. Parce que après, je crois que j'aurais passé la date de péremption.
Je vais faire un peu de nomastique au passage. Les 3 sœurs, elles s'appellent Gabi, Manu et Georges. Ça pourrait être 3 mecs. Pourquoi ce choix ?
Bah parce que Nona avait décidé, quand elles sont nées, de leur donner des prénoms mixtes. Voilà, ça fait partie de son ADN à Nona, de pas coincer ses filles dans un truc.
Je souris parce que vous me parlez de Nona comme si elle existait.
Oui,
vous savez que c'est un personnage de fiction que vous avez vous-même inventé. Ma question était, pourquoi vous avez inventé 3 prénoms de mecs pour 3 filles ?
Mais parce que je l'ai inventé en pensant, qu'est-ce que Nona ferait ?
Ouais.
Je crois que Nona, je la connais bien. En fait,
c'est
c'est à la fois ma mère, c'est à la fois ses sœurs, c'est à la fois toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. Mais c'est surtout, évidemment, un personnage de fiction issu de mon imaginaire. Mais je crois que quelque part, quand on crée des personnages, on les connaît. On les connaît intimement.
Il y a 3 filles très énergiques autour de leur mère qui l'est également. Le dossier de presse présente vos 4 personnages comme une fougueuse famille. En revanche, chez les hommes, c'est beaucoup moins positif. L'amant est qualifié de gauche. Le chercheur est instable. L'époux est dérouté. Est-ce que c'est votre vision du rapport homme-femme et votre vision des hommes ?
Ben c'est vrai que moi, j'avais aussi envie de montrer la douceur des hommes et le fait qu'ils soient un peu perdus dans ce tourbillon.
Ils sont doux, féminin. Mais en plus d'être doux, ils sont complètement largués.
Oui, un peu largués. Et c'est vrai que moi, j'ai une mère qui avait beaucoup d'énergie. Mon père était un homme très gentil. Enfin, est un homme, parce qu'il est toujours en vie, heureusement. Mon père est un homme très gentil et qui a souvent été dépassé comme ça par l'énergie maternelle. Donc, je crois que c'est quelque chose que j'avais un peu envie de raconter aussi.
Je souris s'il nous écoute. Et puis, il y a plein de choses que je n'ai pas dit. C'est le nom des gens, il y a de la musique, il y a plein de choses. Vous restez avec nous, Valérie Donzelli. On est dans Culture Média. Ça continue, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Nona et ses filles, c'est une série, ça démarre ce soir sur Arte à 21h. Il y aura 3 épisodes ce soir, on peut tout voir sur arte.tv. En tout, il y a 9 épisodes, 9 comme les 9 mois de la grossesse, où j'ai tombé par hasard parce que la narration s'arrêtait à 9.
Non, c'était un peu l'idée aussi, c'était 9 épisodes comme les 9 mois de grossesse. On trouvait ça cohérent et puis en 9 épisodes, ça fonctionnait bien.
Valérie Donzelli, notre invitée, vous incarnez Georges, une des 3 sœurs des 3 triplés. Il y a Gabi, il y a Manu, 3 filles qui ont des prénoms de garçons. On peut continuer là-dedans. Le médecin s'appelle Truffe. L'amant de Nona s'appelle André Breton, comme le surréaliste.
Oui, voilà, c'est ça.
Vous avez fait exprès pour que ce soit surréaliste.
Oui.
Et en creux, vous abordez la question de la sexualité chez les seniors. Le premier plan, c'est Miu Miu au lit avec Michel Villermoz.
Ouais.
Le désir charnel d'une femme de 70 ans, c'est rare à l'écran ou alors c'est le sujet même du film.
Oui, bah, j'avais aussi envie de raconter l'histoire d'une femme amoureuse et je trouve que souvent, enfin moi en tout cas, j'ai grandi avec cette idée qu'après 50 ans, bah, la vie s'arrêtait. Bah, non, je ne suis pas d'accord. La vie s'arrête quand elle s'arrête en fait. Et je pense qu'on peut toujours vivre des choses et des histoires d'amour, quel que soit notre âge. Et ça me plaisait de montrer ces 2 personnes. Qui sont amoureux, qui sont dans un rapport sensuel. Je trouvais ça beau.
Voilà, on pense aussi à... Enfin, je voulais poser la question de l'univers. Qu'est-ce qui vous a inspiré culturellement ?
Ben, mon enfance, en fait. Donc, c'est un peu suranné, le décor et
ah,
tout ça.
Ah, c'est pour ça, ouais. Les décors, c'est 70-80, alors
oui.
Que ça se passe de nos jours.
Oui, mais c'est parce que je voulais raconter l'histoire d'une femme qui n'a jamais déménagé, qui a passé 45 ans dans cet endroit.
Mmh.
Donc, Nona, c'est pas une femme qui va refaire la déco de son appartement. Donc, elle a gardé les papiers peints, les machins. Et c'est vraiment quand on rentre dans la rue Poulet, quand on rentre dans cet appartement, c'est toute la vie des filles qu'on voit.
Il y a une scène qui m'a fait hurler de rire, mais on va pas dire ce que c'est. C'est elle a pas eu le temps d'acheter des cadeaux. Les cadeaux qu'elle offre, regardez ça sur Arte ce soir, regardez en replay, vous verrez les cadeaux qu'elle fait à ses 3 filles. Je parlais de l'univers parce qu'on pense un peu aussi à l'univers de Jacques Demy, surtout parce qu'elles se mettent à chanter. On est à la fin de l'épisode 1, Miu Miu, Virginie Ledoyen, Valérie Donzelli, qui font une espèce de round-up de ce qui vient de se passer.
Cet enfant va naître. Mauvais tour.
C'est vous qui avez écrit la chanson ?
Oui.
Sont vos vraies voix ?
Oui, c'est pas que la mienne, il y a celle de Miu Miu et celle de Virginie aussi.
Non, c'était une question collective, c'était la deuxième personne du pluriel. C'est moi. Pourquoi mettre des chansons comme ça ?
Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas exprimer autrement qu'en les chantant. Voilà. Donc, dans mes films, comme je ne sais pas le dire avec les mots de dialogue, juste des dialogues, moi j'écris des chansons.
Et vous jouez également sur les anachronismes. Par exemple, Nona, elle travaille au planning familial.
Oui.
Elle est devant une classe de 3e, elle leur explique la contraception. Et il y a une fille qui lui demande, madame, c'est quoi la contraception ? C'est invraisemblable en 2021.
Ben, je ne sais pas, non. Je pense qu'il y a des jeunes qui ne savent pas forcément ce que c'est.
Attends, juste après, il y a une réplique qui dit, on ne dit pas madame, on ne dit pas les MST, on dit les IST.
Oui,
donc
mais
ils sont vraiment
ça.
Très au courant.
Oui, mais en fait, on est toujours un peu surpris avec la jeunesse. On se fait toujours prendre de vitesse. Il y a des choses qu'ils savent, puis d'autres qui ne savent pas.
5 longs métrages, je l'ai dit, c'est votre première série télé. Pourquoi vous êtes passé à la série ? C'est vous qui aviez envie ou c'est Arte qui est venu vous chercher ?
C'est Gaumont.
C'est
la grande maison Gaumont.
Ouais.
La grande maison Gaumont qui est allée voir Rectangle Productions, qui sont Édouard Veil et Ali Girard, qui produisent mes films depuis 10 ans maintenant. Et donc Gaumont a dit, on aimerait bien travailler avec Valérie Donzelli. Rectangle a dit, d'accord, on va faire ça ensemble, etc. Et puis on a créé Nona.
Et elle a dit quoi, Valérie Donzelli ?
Vous avez dit tout de suite ? D'accord. Alors j'ai dit oui, d'accord, mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec une série ? J'ai jamais fait ça de ma vie. Tiens, moi j'aime bien écrire des personnages, la série ça s'y prête bien, une mère, ses filles, ça me plaît, j'ai commencé à réfléchir à un petit concept et puis ça leur a plu.
J'allais poser la question, qu'est-ce qui diffère entre l'écriture de la série et l'écriture d'un long métrage ?
Alors c'est pas du tout pareil, parce que l'écriture de série c'est vraiment une écriture en arborescence comme ça, où il y a beaucoup de personnages qu'on suit, on fait des arches, c'est des trajectoires comme ça, on a l'impression qu'on peut s'y perdre un peu, c'est assez technique finalement. Et le scénario, c'est différent, le rapport au temps n'est pas le même. Enfin, je sais pas, c'est vraiment deux choses complètement différentes.
Vous n'avez pas travaillé toute seule, vous avez travaillé, je suis bien informée, avec Clémence, Madeleine, Pedria.
Oui, tout à fait. Ça a été vraiment la co-créatrice et co-scénariste de la série. On a travaillé ensemble, c'est une jeune scénariste qui maintenant est grande, puisqu'elle a dirigé toute l'écriture de En Thérapie 2.
Oui.
Et
la
puis elle a fait OVNI, elle a fait plein de trucs. Hein.
Les premiers scénaristes étaient partis. Et tout à l'heure, Justin Moore recevra Jonathan Lambert qui jouait dans OVNI, justement.
Ah d'accord.
C'est une fable, non, c'est moins une fable qu'un conte. Il y a des scènes totalement surnaturelles, par exemple le ventre qui scintille. Et je me disais en vous regardant que j'aimerais bien vous voir signer un téléfilm de Noël.
Et pourquoi un téléfilm de Noël ? Oui, un film de Noël. Quoi.
Vous voyez, ce film de Noël que les télés passent, où ils ont tous des pulls avec des motifs ça, ça se termine toujours bien.
Ouais.
Et je vous imaginais en train de détourner tous ces codes-là. On croit que ça part normal et à la fin, c'est pas normal du tout.
Ah pourquoi pas ? Moi, j'adore les pulls de Noël, en tout cas.
Si j'ai de les bonnes infos, vous n'aviez pas pensé à Miu Miu tout de suite
Non, parce que quand on écrit, on ne sait pas. Alors moi, j'aime bien avoir des grandes images comme ça. Et c'est vrai que c'était pas Miu Miu au départ. Et puis après, la réalité des films fait que voilà, on change de visage au cours de la fabrication. Et puis celui qui reste, c'est celui qui est le bon. En fait.
Moi, je peux le dire, c'était Catherine Deneuve qui était prévue. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Est-ce que vous attendez les chiffres d'audience ? Ou est-ce que c'est déjà signé ?
Mais ça, c'est pas moi qui décide, hein, c'est Arte.
Ah, bien sûr, mais c'est vous qui le savez.
Je ne le sais pas encore. Si vous avez des infos, donnez-les-moi.
Je n'ai aucune info. J'allais vous demander. En général, les chaînes traditionnelles prennent la décision le lendemain de la première diffusion.
Oui,
mais
je pense que
est une chaîne à part.
Non, mais je pense que ça dépend aussi de tout ça, de plein de choses en fait.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valérie Donzelli. Je rappelle,
merci.
Nona et ses filles, 9 épisodes de 30 minutes, les 3 premiers ce soir sur Arte à 21h. C'est déjà disponible sur arte.tv. Il y a Miu Miu, Virginie Ledoyen, Clotilde M, Michel Villermoz. Je réalise que j'ai complètement oublié de dire que la sage-femme était un homme.
Oui, Barnaby Metschuet.
Parce que c'est une coproduction avec les Allemands. Merci d'avoir été avec nous en
Merci.
Direct. Culture Média continue après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet hier soir. Il a regardé un reportage très bruyant sur les gendarmes et un autre sans le moindre commentaire avec des avocats. Il va nous dire lequel il a préféré. Notre invité, je venais de le citer, c'est l'humoriste Jonathan Lambert pour son nouveau spectacle. Il s'appelle Rodolphe. Il s'appelle Rodolphe, le spectacle et Jonathan Lambert car c'est son vrai prénom. Il va nous raconter. Et puis dans les indispensables, Héloïse Bois va nous conseiller une comédie qui est sortie en salle hier. Et Caroline Speller va nous parler d'un jeu vidéo Assassin's Creed très violent, mais qui devient presque pédagogique. L'humoriste, imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.